en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Christian Poncelet, qui est à 83 ans, sénateur des Vosges et président du conseil général de ce département. Christian Poncelet, qui fut plusieurs fois secrétaire d'État et qui fut président du Sénat de 1998 à 2008. Il est probablement le parlementaire français en exercice, totalisant le plus grand nombre d'années de mandats politiques électifs, locaux et nationaux. J'ajoute que Christian Poncelet a été élu le 27 janvier 2003 à l'Académie des sciences morales et politiques dans la section générale. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir sur vos antennes.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, cette question récurrente posée donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Alors tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Christian Poncelet, le moment essentiel ?
C'est sans aucun doute mon élection à la présidence du Sénat. Ce fut en quelque sorte pour moi le couronnement de plusieurs années de travail consacré, bien sûr, à mes concitoyens et à mon pays. Vous savez, le Sénat est une assemblée de réflexion. C'est une assemblée qui est composée d'élus locaux, chevronnés, qui ont beaucoup d'expérience. Et l'expérience, comme vous le savez, est une dure école, et chacun y retient quelque chose. Et par conséquent, le sénateur ne se prononce pas brutalement sur une candidature, il réfléchit. Et c'est pourquoi l'élection à la présidence du Sénat est une élection difficile. Très difficile. Je dirais même qu'elle est davantage encore pour la réélection. J'ai assumé ma présidence pendant 10 années. Pendant ces 10 années, je me suis efforcé, bien sûr, de valoriser l'institution qui m'avait confié sa présidence.
Indépendamment des clivages droite-gauche. Indépendamment
des clivages proche-gauche. Première démarche, j'ai organisé des assemblées régionales, des élus, sénateurs, maires, conseillers généraux, pour que nous puissions traiter ensemble, toutes tendances, bien sûr, confondues, les problèmes auxquels nous étions confrontés, quelles étaient les meilleures solutions, celles qu'on envisageait de proposer, celles qui avaient été décidées, afin d'avoir une excellente information sur ce que souhaitaient, bien sûr, les élus locaux. Deuxième observation, j'ai tout de suite cherché à convaincre mes collègues d'aller en stage dans les entreprises.
Ah oui, ça c'est tout à fait étonnant, ça.
Dans les entreprises, oui, oui. Dans les administrations, type l'administration de la justice, l'administration des armées, entreprises privées, publiques, EDF, Gaz de France, etc.
Mais je me suis laissé dire que vous avez eu des problèmes avec certains sénateurs, par exemple des sénateurs communistes qui n'avaient pas beaucoup envie de se trouver en stage dans une entreprise privée. C'est vrai ça ?
C'est exact. J'ai un sénateur communiste qui m'a dit « Mais mon cher président, je comprends votre initiative, mais vous me demandez à moi, communiste qui ai combattu le patronat pendant toute ma vie, d'aller en stage dans leur entreprise. C'est pas possible. » Et en écho à ces propos, c'est une sénatrice communiste qui m'a dit « Eh bien, en ce qui me concerne, je vous remercie de cette proposition, moi j'irai. » Et en fin de compte, tous les sénateurs de tous les groupes ont effectué ces stages. Et chacun a bien voulu considérer que cela lui apportait quelque chose, parce qu'on ne peut pas prétendre connaître tout. On ne peut pas légiférer sur différents sujets si on ne les appréhende pas très bien. Et c'est ce que je souhaitais. Je constatais qu'il y avait des sénateurs qui, dans un domaine déterminé, étaient très forts, mais par contre, ignorants des autres.
Un peu trop théorique dans leur approche des choses.
Et là, j'ai souhaité ce rapprochement. Et puis par ailleurs, j'ai voulu défendre le bicamérisme. Et Victor Hugo m'a aidé à la circonstance en disant ceci. C'est qu'un Parlement sans Sénat, c'est l'océan, commandé par la tempête.
Lionel Jospin ne l'avait pas lu.
Je ne sais pas s'il l'avait lu, mais enfin. Et j'ai fait référence aussi à mon illustre prédécesseur, Jules Ferry, qui a été président quelque temps du Sénat, vosgien, qui avait dit fort justement, le Sénat est là pour veiller à ce que la loi soit bien faite.
Et garant de la République un peu, c'est ça ?
Garant de la République et surtout veillant à ce qu'il n'y ait pas, autorisez-moi l'expression, des dérapages verbaux, parfois extrêmement rapide dans d'autres assemblées, et que nous avons, nous, la sérénité, parce que nous ne sommes pas sous la menace éventuelle d'une dissolution, la sérénité pour corriger, pour modifier un texte, même si c'est un texte gouvernemental. Donc c'est déjà un avantage. Et puis deuxièmement, j'ai voulu rapprocher les Sénats d'Europe. Une petite anecdote, dans un premier temps, j'ai fondé l'association des Sénats de l'Union Européenne.
Mais vous êtes président d'honneur, donc, c'est ça
hein? C'est exact, j'y arrive. Des Sénats de l'Union Européenne, et c'est à Saint-Pétersbourg, où j'ai été interpellé par M. Poutine lui-même, qui m'a remis une décoration, et qui m'a dit, Monsieur le Président, est-ce que la Russie est dans l'Europe? J'avoue avoir été quelque peu interpellé, là, mais Jeanne d'Arc est bien mon secours, et je lui ai dit, je suis
gaulliste. Et général de Gaulle aussi, quand même, non?
Oui, justement. Et je lui ai dit, Jeanne d'Arc est bien secours, et elle m'a rappelé tout de suite les propos du général de Gaulle en lui disant, mais je suis gaulliste, et vous savez, le général de Gaulle a parlé de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Donc, par conséquent, bien sûr, dans l'Europe. Alors, pourquoi le Sénat russe n'est-il pas dans votre association? Mais je lui ai dit, et là, j'ai menti. Mais dans une bonne intention, n'est-ce pas?
Raison
parce
d'État.
Que,
raison
parce que
d'État.
Tout simplement, la demande n'a pas été faite. Et dans les heures qui ont suivi, j'ai reçu une demande, n'est-ce pas, signée eh bien, du président du Sénat de l'époque, qui était M. Sergueï Mironov, avec lequel je suis devenu très ami. Et en fin de parcours, j'avais rassemblé tous les présidents des Sénats des pays de l'Europe. Et ça, on marchait avec une seule. Chacun pouvait s'exprimer librement sur tous les sujets, une seule chose. Personne ne pouvait faire référence aux travaux qui se déroulaient au sein de notre association pour, bien sûr, s'exprimer à l'extérieur. Tout le monde a été satisfait à tel point que, comme vous venez de le rappeler à l'instant, c'est à Rome, la réunion de l'association, et en présence de mon successeur, M. Gérard Larcher, que M. Sergueï Mironov a proposé ma candidature comme président d'honneur, et j'ai été élu à l'unanimité. Cela m'a fait chaud au cœur.
Alors, on a évoqué très rapidement vos débuts en politique, élection en 1962, mais en fait, votre entrée en politique date de 59, si je suis bien informé.
Elle date exactement de 58, c'est-à-dire pour la raison suivante.
Le retour du général, c'est ça?
Voilà, j'ai été militant syndical.
CFTC.
CFTC, j'ai eu des responsabilités syndicales. Et les affaires, c'était difficile en France. J'étais toujours ardent et actif pour défendre les intérêts légitimes de mes camarades. Et un jour, il y a une manifestation qui a lieu pour le retour du général de Gaulle au pouvoir. J'avais été marqué, dans le cadre de mes démarches syndicales, lors d'une audience accordée par M. Pierre Mendès France sur différents sujets, j'avais été marqué par la volonté de cet homme de réformer le pays. Et à un moment donné, il nous dit, écoutez, j'abrège ma conversation, je dois me rendre dans mon département, dans l'heure. Et il me disait, si vous voulez m'accompagner, accompagnez-moi. Et nous y sommes allés à quelques-uns, et nous avons vu cet homme affronter ses électeurs pour leur dire, oui, ne le regrette pas, j'ai suspendu ce droit de bouillir, n'est-ce pas?
Le privilège des bouilleurs de cru, oui.
Le privilège des bouilleurs de cru.
Il fallait du courage dans ce cas-là.
Il fallait du courage, et c'est lui qui avait recommandé la distribution de lait, et ça, ça m'avait séduit, dans les écoles. Il a été battu. Mais j'avais apprécié ce courage, cette force, et ça m'a toujours marqué dans mes démarches par la suite. Le général de Gaulle est revenu au pouvoir comme président du Conseil, sous M. Coty, président de la République, et les élections ont eu lieu, et je n'ai pas accepté ces élections.
Alors pourquoi avoir accepté en 62?
C'est en 62, pourquoi? Parce que en 59, j'étais contrôleur des liens à grande distance, n'est-ce pas? Je préparais...
Mais vous aviez fait toute votre carrière comme fonctionnaire au PTT.
Aux télécommunications. Oui, aux télécommunications. Alors, j'étais, si je puis dire, en période de titularisation. Voilà. Alors je me suis dit, non, j'ai refusé. Mais par la suite, j'ai accepté parce que 4 ans après son arrivée au pouvoir, élection du président de la République au suffrage universel, il y a dissolution. Et là, je m'engage en politique. Mais entre-temps, je dois vous rappeler que j'ai fondé, avec Capitan, avec Jean-Pierre Lévy, avec Gilbert Grandval, Gilbert de Chartres, l'Union démocratique du travail.
Les gaullistes de gauche.
Qui était ce qu'on appelait les gaullistes sociaux, qui voulaient donner, bien sûr, une marque forte, n'est-ce pas, au gaullisme dans le domaine de l'humain, dans le domaine du social.
Alors vous-même, vous avez été en première ligne pour ça. Et vous avez été secrétaire d'État à l'emploi.
J'ai été par la suite, oui, sur le gouvernement de Pierre Messmer. J'ai été appelé pour être secrétaire d'État.
Vous êtes occupé à ce
auprès
moment-là
de M. Edgar Faure, oui, qui était ministre des Affaires sociales, et moi j'étais secrétaire d'État.
Et là, il y avait la grande question de l'actionnariat ouvrier.
L'actionnariat et la participation. Ah, j'ai mené une bataille assez forte, là. Pour l'actionnariat, j'ai gagné sur certains points. Pour la participation, ça a été plus difficile. Je vais donner un exemple, parce que le patronat considérait que faire entrer dans les conseils d'administration, pas un représentant, pas syndical, mais un représentant du personnel, c'était une inspiration d'ailleurs d'un pays voisin.
L'Allemagne.
Mais l'Allemagne, le personnel s'était porté atteinte à leur autorité. Et puis les syndicats s'étaient portés atteinte pour eux à leur audience. N'est-ce pas? Et puis il faut savoir qu'en France, nous-mêmes, nous avons une caractéristique, nous savons nous diviser, n'est-ce pas? Le nombre de syndicats qu'il y a, alors qu'en Allemagne, il n'y a qu'un seul effort syndical, ça s'appelle le DGB.
Mais est-ce qu'avec le temps, vous avez l'impression que cette vision de la troisième voie, qui était celle du général de Gaulle, et qu'on a beaucoup raillé à cette époque-là?
Eh bien, elle revient.
Elle revient.
Elle revient aujourd'hui. Elle revient. Que va faire prochainement le président de la République? Il va faire une large concertation. Est-ce un peu tard? Je n'en sais rien. Mais on revient, on parle de présence. J'ai réussi à faire entrer au conseil d'administration le représentant du personnel dans une seule institution, c'est la Banque de France.
Ouais, pas n'importe laquelle.
La Banque de France. À la Banque de France, il y a un représentant élu du personnel. Du personnel, pas des syndicats. D'ailleurs, les syndicats, au départ, étaient très réticents. Et quand le gouvernement a voulu supprimer cette représentation, ils ont été aussi forts qu'ils avaient été pour nous combattre, pour soutenir cette réalisation.
Deuxième question récurrente de notre série « L'essentiel ». Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, Christian Poncelet, sur votre domaine d'activité aujourd'hui, disons globalement la politique, et sur ce que vous faites actuellement et la manière dont vous la pratiquez, cette politique? Parce que quand je disais tout à l'heure que vous étiez le parlementaire qui avait probablement le plus de mandats électifs à son actif aujourd'hui, c'est qu'il y a un truc, quoi. Vous avez une certaine façon de faire de la politique, une certaine façon de concevoir vos relations avec les hommes politiques. Moi, j'ai même une anecdote. Après, je vous la raconterai, l'anecdote.
Écoutez, voilà, nous traversons actuellement une période difficile. Il y a toujours eu d'ailleurs plus ou moins des périodes difficiles, mais aujourd'hui, elle est particulièrement difficile, cette période. Et par conséquent, c'est difficile pour le pays, difficile aussi pour mes concitoyens. C'est donc une obligation de réintroduire dans nos démarches politiques la préoccupation des citoyens. Pas ? Et mon souci a été toujours de partager mon temps comme législateur, et l'autre partie, en relation avec la population, à l'écoute de celle-ci.
Donc en étant très proche des gens, quoi.
En étant très proche des gens. Prenons l'exemple aujourd'hui. Nous sommes engagés dans une véritable guerre économique. Personne ne conteste. Aujourd'hui, il ne s'agit plus pour les pays de se battre pour acquérir des territoires. Il s'agit pour chaque pays, quel que soit son système économique et politique, n'est-ce pas, de conquérir des marchés. Ouais. Et même au sein de l'Europe, cette conquête existe. Et par conséquent, dans ce combat, il faut avoir des idées, il faut présenter des solutions, il faut être combatif. Et surtout, il faut être ferme sur certaines de ces idées lorsqu'on a la conviction, le sentiment que l'on sert d'intérêt général. Intérêt général qui, comme certains ont tendance à le croire, n'est pas la somme des petits intérêts particuliers des uns et des autres.
Alors à propos
et quelqu'un a écrit que, bien sûr, une telle attitude conduit à être impopulaire. Et c'est vrai. Mais précisément pour moi, l'impopularité, c'est la noblesse de celui qui consacre avec cœur, avec passion, toute son ardeur, n'est-ce pas, à défendre les causes qu'il considère comme justes, comme intéressantes. Les causes que je combats aujourd'hui pour équiper mon département, pour modifier ma législation, surtout sur le plan social ou sur le plan budgétaire. Je n'aime pas aujourd'hui la polémique telle qu'elle se développe ici et là. Je n'aime pas.
Oui. Et c'est un petit Roland de poubelle un peu. Hein.
Oui, écoutez, puisque j'ai parlé de guerre économique, allons. Je le dis sincèrement du fond du cœur, comme j'aimerais que certains hommes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont aussi patriotes que moi, ne pourraient pas se réunir.
Christian Poncelet, en vous écoutant, on a l'impression d'entendre François Bayrou.
Non,
là.
Mais je ne sais pas si c'est François Bayrou, mais peut-être.
Mais
c'est De Gaulle qui m'inspire toujours.
Oui.
De Gaulle.
Mais ça n'a pas duré longtemps. Il a réussi à faire ça très peu de temps à la Libération.
Comme ça.
Quand même.
Mais non. Il l'a fait à la Libération. Il l'a fait en 58.
Oui,
quand
fait.
Il est revenu,
tout
on était allé le chercher. Il a dit, je reviens, mais restez avec moi. Aujourd'hui, pour un temps limité, réunissons-nous, rassemblons-nous. Voyons ensemble ce qu'on peut proposer pour défendre réellement notre pays et bien sûr notre population. Mais il ne s'agit pas de prendre un candidat dans un coin, un autre candidat dans un autre coin. Non, c'est une volonté exprimée par les formations politiques responsables. Responsables, n'est-ce pas ? Et je crois que ça est possible. Et celui qui dit non, eh bien je considère qu'il est déserteur. Quand il y a une guerre, il faut se mobiliser, sinon on déserte.
Oui.
Alors, et c'est pas bien.
Revenons sur deux choses que vous venez de dire, là. Vous parlez de déserteurs, vous parlez de guerre économique. Ça veut dire que pour vous, nous sommes dans une situation qui est au moins aussi grave que celle de 1929?
Oui.
Au moins
sinon
aussi grave.
Sinon plus.
Et est-ce que vous pensez que
la
population...
Mais il y a une part, attention.
Oui.
Sinon plus, mais autorisez-moi à vous dire qu'il ne faut pas se tourner vers les autres pour dire tous coupables. N'est-ce pas? Non, nous sommes coupables aussi. Nous avons commis une erreur. Et la première erreur que nous avons commise, de mon point de vue, Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, en 58, il trouve l'Europe des six. Allemagne, France,
Benelux,
Belgique, Luxembourg, Italie, Hollande. Six pays, attention, six pays qui se sont affrontés, alliés ou en affrontement direct, n'est-ce pas ? Ce sont ceux qui ont fait la guerre. Et les peuples sont comme les hommes. Vous connaissez la formule, ils ne se connaissent bien que quand ils ont souffert. Ces six pays avaient souffert. Et pourtant, tout d'un coup, ils disent, mais pourquoi ces guerres fratricides ne pourrait-on pas s'entendre ? Monet, De Gasperi, Spaak,
Adenauer,
bien sûr. Oui. Robert Schuman, était scout de France à l'époque.
Quelques visionnaires.
Hein, pour l'Europe des six. De Gaulle, je reprends toujours sur l'expression, c'est l'héritage. Veillons à l'entretenir, n'est-ce pas ? Et alors, à peine avait-il prononcé ces mots que déjà d'autres lançaient une opération. Une opération élargissant l'Europe, vite, à la Grande-Bretagne, au Danemark et à l'Irlande.
On pensait à Jean Le Canuet
Oui, lui entre autres, n'est-ce pas, qu'il repose en paix. N'est-ce pas, lui en double, c'était leur idée. D'autre part, dans le pays, il y avait un écho, surtout chez le monde agricole, qui trouvait là
un marché,
élargissement
quoi.
De son marché.
Oui,
oui. Alors,
mais vous pensez que ça a été une erreur historique, cet élargissement ?
Oui, alors, De Gaulle ne voulait pas. Et De Gaulle ne l'a pas fait. Pompidou arrive au pouvoir. Et Pompidou, rappelez-vous, pendant la campagne électorale, il a été interpellé par Duhamel. Pompidou, je me souviens, avait dit, je ne suis pas, bien sûr, définitivement opposé, nous aviserons. Et à plusieurs conseils des ministres, on lui rappelait chaque fois, c'est pour quand. Et un jour, se tournant vers Mesmer et vers moi, nous n'étions pas chauds partisans, disons.
Vous vous souvenez de ça
Oui, c'est vrai. Il dit, on va traiter cette affaire. On s'est regardé. Il a dit au conseil des ministres, messieurs, je vais soumettre cette question au référendum.
Mais lui, quel était son point de vue ?
Un référendum. Le référendum a eu lieu, les Français se sont prononcés. Et on s'est prononcé pour l'élargissement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois que vous avez accepté cet élargissement, comment pouvez-vous refuser à l'Espagne,
au Portugal,
et aux autres pays qui allaient se tourner vers l'Europe après la rupture du mur de Berlin ? Comment pouvez-vous ? Et alors, je dis ceci, on avait des fondations solides, mais aujourd'hui, on leur impose un poids qu'elles ne peuvent plus supporter. Il lui fallut, mais on le dit maintenant, il lui fallut à l'époque, je crois que c'était la pensée du général et de Pompidou, harmonisons, on en parle maintenant, charge sociale et charge fiscale entre ces six pays, une fois harmonisés, c'est une force, et ensuite déterminons pour ces six pays, n'est-ce pas, et pour ce bloc, soit fédéral, soit sous une réforme ces pays, une monnaie unique. Et cette monnaie, ceux qui veulent unique, bien sûr, sera forte. Et ceux qui veulent entrer dans ce club, des six, paieront leur ticket entier.
Mais là, vous soulignez donc l'un des facteurs, disons, de l'échec en partie de ce qui a été la construction européenne. Mais il y en a un autre quand même. Je sais que vous êtes sensible à ça. C'est l'organisation du commerce international, en même temps.
J'avais été conduit, étant en responsabilité, comme président de la commission des finances du Sénat. Conduit à établir ce qu'on appelle l'accord multifibre.
Très important.
L'accord multifibre, c'était un accord qui limitait l'importation de produits textiles au-delà d'un certain quota.
Et là, vous étiez bien placé pour...
Je défendais mon industrie textile, n'est-ce pas, qui connaissait des difficultés énormes, qui limitait, autrement dit, mais qui limitait l'importation de produits textiles des pays hors communauté européenne, hors communauté européenne. Et ça a marché, ça a protégé. Mais l'Organisation mondiale du commerce, qui s'est appliquée à partir du 1er janvier 2005, a fait tomber brutalement cela.
Dérégulation, quoi.
Et le 5 janvier arrivaient des trains entiers, des bateaux entiers qui attendaient de produits textiles qui ont envahi le marché européen et qui ont mis en sérieuse difficulté l'industrie textile. Et les industriels textiles vous le diront.
Donc il y a deux éléments en même temps.
Oui, deux éléments.
Alors je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué là brièvement tout à l'heure. La question des budgets et de l'équilibre des budgets. Il se trouve que vous avez été secrétaire d'État au budget au moment où le dernier budget équilibré de la France a été voté. C'était en 75, ça, c'est ça, hein, budget de 75.
Monsieur le Président de la République, Monsieur Sarkozy a fait référence à un discours en parlant des années 74 et 75. Monsieur Pompidou meurt. Il y a deux candidats, Monsieur Giscard d'Estaing et Monsieur Chaban-Delmas. En ce qui me concerne, gaulliste, je soutiens Monsieur Chaban-Delmas. J'étais précédemment dans le courant de Pompidou et de Mesmer. M. Chaban-Delmas, au premier tour, ne passe pas. Il se retire en fonction de M. Giscard d'Estaing et je fais campagne, honnêtement, pour Giscard d'Estaing.
Logique.
Et M. Giscard d'Estaing m'a fait savoir qu'il voulait me faire appeler à l'Élysée. Il me reçoit. Je me suis dit, il va certainement me remercier, n'est-ce pas ? C'est ma pensée interne. Et il me dit, cher Poncelet, Voilà, je viens de désigner M. Chirac comme Premier ministre et je lui ai demandé de vous confier le budget. J'ai eu un petit recul, quoi. Il m'a dit, mais non. Il a pensé que j'hésitais un peu, mais non. Il m'a dit, vous avez fait les télécommunications, vous savez que 2 et 2, ça fait 4. Alors, rendez-vous demain, mercredi, à 10h. Et là, je suis au budget. Je trouve le budget, M. Chirac était Premier ministre, je trouve le budget de 1974 en difficulté. Je me force de le redresser. À l'époque, il n'y avait pas de ligne directrice émanant du Premier ministre auprès des ministères pour orienter le budget. Il y avait un dialogue qui s'établissait entre le secrétaire d'État au budget, ses collaborateurs et le ministre. Je me souviens que M. Le Canuet m'avait dit fort aimablement, vous savez, mon cher Poncelet, le président souhaite que mon budget ait une augmentation assez forte, un du retard. Ben, je lui ai dit, écoutez, oui, peut-être, mais oh, il dit, faut aller à 4%. Mais c'est M. Lucardin qui vous l'a dit. Oui. Oh, ben, je vais l'appeler parce que. Alors, je fais signe d'appeler M. Jean-François Poncet.
Jean-François Poncet, oui.
Non, c'est pas la peine. Je lui dis, allons, dialoguons. Et je lui ai dit, je ne lui ai pas donné ce qu'il exigeait.
Un autre
ministre, c'était mon ami Pierre Mazeaud, qui vient, il me dit, bon, j'ai vu Jacques Chirac, c'est 3%. Hein. Ben, je lui dis, c'est pas 3%, c'est même pas 1%. Alors, il me dit, ouais, je m'en vais. Ben, je lui dis, va-t'en. Va voir M. Chirac, puis on verra. Pas, c'était très dur. Et j'ai réussi à ce que ce budget soit exécuté, bien sûr, sans déficit. J'ai construit en même temps le budget de 75. Et dans le budget de 75, j'ai veillé à ce qu'il soit en équilibre, mais avec un léger excédent. Et Je me souviens avoir dit, à un moment donné, attention, nous sommes à la veille d'entrer, dans le cycle infernal du déficit, on sait comment il entre, on ne sait pas comment on sort.
Mais
depuis
1975,
il n'y a plus jamais eu de budget présenté en équilibre, que le gouvernement soit de droite, de gauche ou du centre. Oui, plus jamais. Et d'où l'endettement que nous avons aujourd'hui.
Christian Poncelet, expliquez-nous pourquoi le budget de 76 est en déséquilibre, alors que si on cherche des explications, on peut se dire la crise pétrolière, mais elle est de 72-73, oui. La crise pétrolière. Alors pourquoi en 76, tout à coup, on accepte un déficit qui va être en fait le premier d'une série catastrophique?
Non, mais parce que...
Pourquoi
nous avons en France une forte imagination pour la dépense. Une forte imagination. J'ai bien souvent regretté qu'on ne vienne pas en délégation apporter des projets de recettes, n'est-ce pas? Et il fallait, j'allais dire, dans certains secteurs, donner un coup de pouce. Alors, le petit déficit, on le gommera, mais on ne le gomme pas comme ça. Et de petit déficit en petit déficit, puis après, ça s'est fortement aggravé. Mais j'avais dit, attention, j'avais prévenu. J'ai fait même un rappel, c'était dans le débat budgétaire en décembre 2010, c'est récent, où j'ai dit, en interpellant Mme Lagarde, interpellant correctement, bien évidemment, et M. Verhofstadt, en disant, attention, nous approchons de la ligne jaune, c'était 1 600 milliards. Mm-hmm. Si elle est franchie, de l'autre côté, on se noie. N'est-ce pas? En quelques mots. Malheureusement, elle est franchie, et aujourd'hui, on est dans une sérieuse difficulté.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel. Alors, on va élargir un peu les perspectives. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer, question Poncelet, à propos de la situation générale du monde, l'évolution de notre société, une idée clé, avec la part de jeu que ça implique, bien sûr.
Actuellement, en ce qui concerne la société, société française, puis les autres sociétés aussi, nous avons, nous, une évolution démographique importante. Nous sommes à 65 millions d'habitants. Cela se traduit par foyer à 2,5, n'est-ce pas ? Par foyer enfant. C'est la plus grosse fécondité de toute l'Europe. Premier point.
Ça, c'est pas mal, ça.
Non, au contraire.
Oui.
Et un deuxième bien, c'est que nous avons une durée de vie plus longue qu'auparavant. C'est grâce, bien sûr, aux efforts dans la recherche pour la médecine, n'est-ce pas ? Donc, c'est à peu près 82 ans pour les femmes et à peu près 78-79 ans pour les hommes. Donc, des jeunes en abondance, des personnes qui prolongent leur vie. Cela pose un problème. S'agissant des jeunes, il faut dès maintenant, réfléchir à leur formation pour les adapter dès maintenant aux technologies nouvelles, pour que demain ils puissent appréhender les métiers nouveaux. Parce que nous sommes, ne l'oublions pas, devant aussi une évolution technologique, je reviendrai dans un instant. Donc, voyez, nous préoccuper des jeunes pour demain, leur formation et leurs emplois. Pour les personnes âgées, il faut aussi prévoir les conditions de bien les accueillir. Et nous avons en quelque sorte en France une contradiction à solutionner. Laquelle ? C'est que les personnes âgées, aujourd'hui, le plus longtemps possible, veulent rester chez elles, dans leurs meubles. Pour cela, il faut prendre des dispositions pour leur porter à domicile, bien sûr, les repas, n'est-ce pas ? Veiller à leurs soins, surveiller de temps en temps, etc. Mais à un moment, il arrive que ces personnes ont un état de santé tel qu'il leur faut une sécurité permanente.
Oui.
Et donc, il faut prévoir leur hébergement dans des structures adaptées, c'est-à-dire dans des maisons de retraite, mais pas des maisons de retraite type 1950, ce pas des maisons de retraite nouvelles, c'est-à-dire avec des espaces pour ceux qui sont atteints d'Alzheimer, de ce qu'on appelle des lieux de vie, n'est-ce pas ? On doit faire cela.
Mais pourquoi ne le fait-on pas ? Mais, question idiote.
Moi, je vais parler pour mon département, que je connais bien. Dans mon département, je le fais. J'ai veillé à ce que mes collèges, c'est la responsabilité du département des Vosges, par la loi, les collèges, que nous soyons équipés des matériaux nécessaires, les plus évolués, n'est-ce pas, pour chaque collège, que dès l'entrée en sixième, ils puissent, c'est-à-dire, appréhender parfaitement ces matériaux nouveaux. Enfin, écoutez, l'exemple que je vais le prendre, c'est un échange de famille, n'est-ce pas? J'ai un fils, un petit-fils, n'est-ce pas? Moi, j'apprenais la table de multiplication, 2 × 2, 4, 2 × 2, 8, je cherchais sur mon ordinateur, renseignement, qu'est-ce que tu fais, papy? Alors, je lui dis ce que je fais, tire-toi. Et il a tapé sur le bouton à toute vitesse, etc. Il m'a donné la réponse. J'étais heureux, parce que ça, c'est nouveau, ça. Je n'ai pas connu ça. Et par conséquent, lui, il est préparé, on le prépare dès maintenant à cela. C'est ça qu'il faut faire. Pour nos personnes âgées, c'est pareil. Je vais vous dire tout de suite, pour moi, une bonne nouvelle. En Lorraine, avec 138 places disponibles, avec des espaces de vie, quoi, les espaces de vie, j'ai actuellement 138 places d'accueil pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans. J'ai la capacité d'accueil la plus importante des 4 départements lorrains. Des 4 départements lorrains. Ça, c'est une première chose. Et puis, pour le coût, un coût qui est autour de 40 euros par jour. Le coût le plus bas de toute la région Est. Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Ce sont là des données officielles que je vous donne. Donc, voilà la démarche qu'il faut faire pour demain. Pour accueillir demain.
De façon extrêmement concrète, quoi. De la même façon, dans votre département, si je suis bien informé, vous avez fait un travail très, très poussé, avec une volonté permanente très assidue pour la succession de la filière textile. Alors, ce qui est quelque chose de tout à fait étonnant, en suivant ce qui se passait dans votre département, j'ai découvert, moi qui suis un amateur de whisky américain, que le bourbon était mis en...
Je vais vous raconter l'histoire.
C'est vrai, ça ?
C'est vrai, c'est vrai.
Que les tonneaux du bourbon viennent de chez vous ?
J'étais jeune parlementaire. Je vais rendre visite au maire de village qui s'appelle Montureux-sur-Saône. Le maire était un ami à l'époque, M. Henri Didier, et il me fait visiter son village. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces troncs de chêne ? Ah ben, il me dit, ça part aux États-Unis, ça. Je dis, parce qu'ils font là-bas, il m'a dit, je ne sais pas. Alors, je me suis renseigné, j'ai enquêté, etc. Les Américains venaient en France choisir sur pied une espèce de chêne, qui a une qualité particulière, qu'ils savaient choisir, eux, achetaient sur pied ces chênes, les faisaient abattre dans les Vosges, et les troncs partaient.
Autrement dit, on vous prenait comme un pays sous-développé, quoi.
Mais ma matière première.
C'est ça, oui.
Ma matière première.
Pas de valeur ajoutée du tout, quoi.
Ma matière partait, ça continue, je vous explique sur autre chose, partait aux États-Unis. Alors, j'ai rencontré l'ambassadeur, j'ai un peu forcé la vérité, en disant, Excellence, n'est-ce pas, je viens vous alerter, parce que je crains que nous ne puissions plus, n'est-ce pas, alimenter suffisamment vos besoins en chêne. Et je lui dis, il serait préférable que ça se fasse sur place, etc. Et aujourd'hui, je résume, et aujourd'hui, à Montureux-sur-Saône, j'ai une usine qui fabrique
donc
des fûts.
Donc c'est vrai, cette histoire.
Parce que ces fûts ne doivent pas être collés, les planches ne doivent pas être collées, ni clouées. Pas, c'est mortaisé tout cela. Eh bien, c'est préparé dans les Vosges, et ça part. La valeur ajoutée était donnée dans les Vosges, l'emploi était créé dans les Vosges, ça part là-bas, et il recompose le fût en le resserrant, il verse le whisky qui resserre tout cela, et par conséquent, le whisky mûrit et prend un goût particulier
dans le bois qui vient des Vosges.
J'ai le même combat aujourd'hui que j'essaye de régler en ce qui concerne le résineux. Mais les troncs de sapin, de pin, s'en vont en Allemagne. Sont traités, sciés, colorés, etc. Et reviennent parfois 3-4 fois le prix d'achat pour sous forme de planches magnifiques, n'est-ce pas ? Soit pour faire des meubles, soit pour faire des chalets. Alors j'essaie de faire en sorte, j'ai des négociations avec une grande industrie allemande, de faire en sorte que cela se passe chez moi pour que ma matière première soit gardée aux Vosgiens et l'emploi soit créé chez moi.
Donc valeur ajoutée chez vous. Alors est-il exact que pour tous ces problèmes-là, vous arrivez à créer des réunions patronat-syndicat de réflexion ? C'est vrai ça ?
C'est vrai. Chaque fois que je le peux, je confronte pour le faire. Alors quand j'ai lancé cette idée, que l'usine vienne s'installer chez moi, certains bûcherons, je les comprends, on dit on n'aura plus de travail, etc., parce que les bûcherons, c'est eux qui avaient la coupe, ça partait, transport, c'est pareil. J'ai essayé de faire comprendre tout ça, c'est pas facile, mais il faut avoir des idées, il faut faire des propositions, mais surtout, il ne faut pas, il faut se battre pour essayer de convaincre.
Oui, mais il faut se battre. Dans votre démarche, j'essaye de comprendre, parce que c'est certainement pas un hasard si vous avez le plus grand nombre d'années de mandat électif. Votre idée, c'est concret, service des gens et distinction politique, je m'en fous, grosso modo.
Oui.
Est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a raconté ? Il y a un élu communiste de votre département, c'est vrai ça, cette histoire, qui disait « Moi, à Paris, je vote Marché », un communiste, hein, « À Paris, je vote Marché et dans les Vosges, je vote Poncelet ». C'est vrai ça ?
Il a dû se faire tirer les oreilles, celui-là.
Je ne sais pas qui c'est qui vous a apporté ça, mais je vous le dis avec émotion, c'est vrai.
C'est vrai ?
C'est vrai, il y avait une élection pour le président, qui s'appelait M. Bresson. Excusez-moi, mais je suis ému.
Je vous en prie,
M. Bresson.
Ça se comprend.
Et on élit cette élection. Et il dit, je demande la parole. Et Stav, il dit, je suis communiste. Moi, je veux que les choses soient claires. À Paris, je vote Marché. Mais dans un instant, je vais voter Poncelet. Voilà, c'est clair. Alors, il y avait des socialistes qui étaient là, je ne donnerai pas de nom, mais certains importants, qui l'ont un peu bousculé, etc., j'ai créé l'apaisement. Mais j'ai trouvé que c'était courageux, et il a toujours continué, parce que, et ça c'est vérifiable, il avait confié à son épouse, parce qu'il avait été malade, une petite note, si quelqu'un doit prononcer quelques mots sur mon cercueil, je souhaite que ce soit le président du Sénat, j'étais président du Sénat à l'époque. C'est moi qui l'ai prononcé, en dehors de toute chose. Non, moi je crois en l'homme, je crois en l'homme.
C'était la vieille tradition CFTC aussi, un peu ça.
Oui, aussi, en plus. Mais je crois en l'homme. L'homme ne peut pas être totalement mauvais, totalement bon. Mais je crois en l'homme. Il y a du bon.
Est-ce qu'une réaction comme celle-là, au fond, ne justifie pas une carrière ? La réaction de cet homme, cet élu communiste, vous entendez ça, vous êtes justifié dans votre carrière, là ?
Écoutez, j'ai aussi le fait que j'ai toujours eu la volonté de chercher aussi à m'élever dans la hiérarchie. Pourquoi ? Parce que plus j'avais de responsabilités, mieux je pouvais servir mon département. J'ai bien conscience aujourd'hui que si je n'avais pas été élu à la présidence du Sénat, je n'aurais pas eu le pouvoir nécessaire pour faire en sorte que le TGV vienne jusqu'à Remiremont.
Vous l'a reproché. Hein.
Et oui, à Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges. Oui. Et à Saint-Dié-des-Vosges, quand j'ai posé le premier caténaire, certains de mes amis n'étaient pas là, pensant que c'était une opération électorale. D'autres amis, même socialistes, étaient là, oui, n'est-ce pas, disant bon, on y croit. Puis à Remiremont aussi, aujourd'hui, je me réjouis que le TGV soit là.
Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un symbole de ce qu'était la méritocratie sous la Troisième République ?
Non, je n'ai pas cette prétention. J'ai été scout de France, mes parents étaient de conditions modestes, n'est-ce pas ? Et je le dis souvent, et mes grands-parents qui m'ont élevé avaient de l'exploitation agricole. Je rentrais du collège, mon grand-père me disait « Allez, Christian, tu vas essorer les bêtes. » Essorer les bêtes, c'était aller terminer, n'est-ce pas, ce que n'avait pas fini. La machine à traire qui n'était pas performante comme aujourd'hui, il fallait essorer pour pas qu'il reste de lait dans la mamite, pour ne pas qu'il attrape une certaine maladie qu'on appelle la mamite, dans les mamelles, vous savez. Alors, quand j'ai une confiance, je sais pas, je dois la mériter, je dois la confirmer, et par conséquent, c'est vrai, comme maire, comme président du conseil général, on m'a renouvelé la confiance, etc. Et puis le devoir, c'est un devoir que je m'impose, qui est normal. Ils m'ont fait confiance, il faut ne pas les décevoir. Je vais souvent aux rencontres des uns et des autres.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Christian Poncelet, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ? Vous avez le choix. Hein.
Oui, c'est difficile. Je vais prendre...
Il y a une part de jeu, encore une fois, là-dedans.
Oui, je vais prendre... je vais prendre un exemple. Il est d'actualité. On a parlé, et on parle toujours, du printemps arabe. Le printemps arabe. Eh bien, aujourd'hui, ça m'apparaît comme l'événement le plus équivoque. Pourquoi ? Hein ? Et je l'ai rappelé, ça, à certains de mes amis. Le général de Gaulle ne voulait pas qu'on aille s'immiscer dans les affaires d'autres pays. Point. Vous le savez ?
Pas le droit d'ingérence, quoi.
Pas le droit d'ingérence. On a eu une expérience lorsque l'ayatollah Khomeini quitte l'Iran, et engage, après avoir engagé une révolution contre le Shah, et c'est nous qui l'hébergeons, à Neuf-le-Château. Depuis Neuf-le-Château, il conduit la révolution en Iran. Il l'a conduit, n'est-ce pas ? Bien souvent, les grands révolutionnaires sont à l'écart, n'est-ce pas ? Il conduit cette révolution. Il gagne, le Shah s'en va, il rentre. Que fait-il ? Excusez-moi l'expression, il nous crache au visage. Il nous crache au visage. Et je comprends ! Les populations se révoltent parce qu'elles n'ont pas de liberté, parce qu'elles sont sous une dictature militaire, se révoltent. Nous sommes compréhensifs, nous les comprenons. Les Égyptiens veulent mettre Moubarak dehors. Les Tunisiens veulent mettre Benali dehors, pour plus de liberté, pour plus de démocratie. C'est bien, on ne peut pas être insensible à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Ils ont gagné, les révoltés, ils ont voté. Et ils vont mettre au pouvoir une autre dictature. On parle de restaurer la charia en Égypte. En Tunisie, il y a déjà des affrontements. J'avais indiqué un jour que les informations que j'avais, c'est que les exilés islamistes d'Angleterre qui rentraient, prétendaient être dans le nouveau gouvernement tunisien. C'est en cours. Nous sommes allés sur le terrain, en Libye. Kadhafi était un dictateur, un homme horrible. Et aujourd'hui,
est-ce que ça veut dire aujourd'hui
est-ce qu'on n'a pas été en quelque sorte trompé, on ne s'est pas trompé nous-mêmes.
Mais est-ce que vous auriez préféré que cela n'ait pas eu lieu?
Non, s'ils ne veulent plus Kadhafi, qu'ils le sortent eux-mêmes. S'ils ne veulent plus de Moubarak, qu'ils fassent leur propre révolution. Nous n'avons pas à nous ingérer. Hein? Nous n'aurions pas de regrets aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si demain la charia est rétablie en Égypte, ce dont on parle beaucoup, si demain ce sont des gouvernements religieux, voire l'Iran, ce sont des gouvernements insupportables, donc je dirais qu'on a été trahis, quoi, en quelque sorte.
Donc raison gardée.
Raison gardée.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Christian Poncelet, le plus d'espoir?
Eh bien, sans contestation, sans hésitation, ce sont les progrès de la médecine. Alors là, début 2012. C'est bientôt. Monsieur le professeur Carpentier, dont je vous rappelle que le père était vosgien.
Ah, alors c'est une marque.
Comme directeur départemental de l'équipement, c'est lui qui a reconstruit une partie du département des Vosges, et Épinal en particulier, où il a une avenue. Le professeur Carpentier, disais-je, espère implanter un cœur artificiel de 900 grammes dans le thorax des insuffisances cardiaques au stade terminal. Artificiel.
Il va le faire, ça?
Il espère le faire, c'est ça que je vois. Il espère le faire.
Oui.
N'est-ce pas? Et il attend l'autorisation, d'après ce qu'il m'a dit, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Et pour moi, c'est un grand espoir. Savez-vous qu'au point de vue insuffisance cardiaque, au stade ultime, il y en a 100 000 en France? Actuellement, on peut, par don d'organes, en guérir 4 000. 100 000, 4 000. Savez-vous qu'entre l'Europe et les États-Unis, il y en a à peu près 20 millions. Imaginez le succès de cette réussite médicale, un cœur artificiel qui pourrait apporter l'espoir à toutes ces populations. Ça m'apparaît extrêmement important. Et je suis ça avec intérêt parce que le professeur Carpentier m'a par ailleurs aidé, je suis président du groupe d'amitié France-Vietnam, à installer à Saïgon, aujourd'hui appelé Ho Chi Minh Ville, ou plutôt on tend à revenir à Saïgon, là un centre de cardiologie qui s'appelle Saint-Jean-Louis Carpentier, que j'ai souhaité en tant que président de l'amicale parlementaire avec la France-Vietnam, que la France apporte sa contribution à cela. Et les relations entre le Vietnam et la France sont, de ce point de vue, excellentes, puisque pendant mon période de président du Sénat, on les a beaucoup aidés et je me suis permis de renforcer les liens entre nos deux pays qui s'étaient affrontés. Ben, je crois que ça, c'est pour moi un terrible espoir.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel a été, Christian Poncelet, le plus grand échec de votre vie?
Eh bien, c'était dans les années 90. J'étais alors président de la commission des finances du Sénat. On parlait déjà beaucoup de réformes. Et j'étais forcé à l'époque de fusionner deux impôts. L'impôt sur le revenu, l'IRPP, dont je rappelle qu'il a été créé par M. Caillot en 1914. Et en 1986, c'est Michel Rocard qui crée un nouvel impôt. C'est-à-dire la contribution, la CSG, contribution de solidarité généralisée, avec 1,3 sur la base. Je constate que la CSG a une base plus juste, cette 1,3 qui s'appuie sur le revenu du travail et sur le revenu du profit, tandis que l'IRPP uniquement sur le revenu du travail. Fusionnons les deux. Je vous rappelle au passage que de 1%, M. Caillot, on est déjà monté à près de 50%. Que de 1,3%, M. Rocard, on est déjà passé 8%.
C'est une logique élémentaire.
Mais enfin, c'est le constat. Faisons en sorte aujourd'hui de fusionner les deux, parce qu'il me semble que le CSG a une base plus juste que l'autre.
Et pourquoi n'y êtes-vous pas arrivé?
Parce qu'on m'a toujours dit, c'est pas le moment, on ne peut pas le faire, non, c'est pas le moment.
Etc. Mais ça, c'est ni droite ni gauche, c'est
pareil. Ça, c'est ni droite ni gauche. On dit, peut-être qu'on le fera, c'est difficile à faire avaler. Comme aujourd'hui, on hésite sur la TVA. Mais enfin, dans cette guerre économique, c'est une règle élémentaire. Certains produits qui viennent de pays qui n'ont pas de programme social, qui ne respecte pas, comme nous, la protection de la nature, n'est-ce pas?
Pensez à la Chine, par exemple.
Et pas que ce pays-là.
Non, mais là, c'est quand même caricatural.
Oui, alors, nous pourrions avoir une TVA qui prendrait en considération, bien sûr, cette absence de participation à l'effort national qu'on doit mener.
Vous pensez que dans la campagne électorale qui s'ouvre, ni l'une ni l'autre des deux recommandations que vous faites ne sera prise en compte?
Je ne sais pas. Mais je crois qu'il faudra une grande réforme. Quand je regarde l'histoire de mon pays, les grandes réformes, hélas, viennent de la turbulence,
oui.
viennent quand il y a un mouvement révolutionnaire, pas qui se prépare ou qui a lieu. Je ne voudrais pas cela, parce qu'on sait là aussi comment ça commence, on ne sait pas comment ça peut venir. Les grandes réformes viennent de cela. Il faut qu'il y ait des tensions fortes. Pour éviter cela, c'est la raison pour laquelle je dis, hommes de bonne volonté, unissons-nous.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, Christian Poncelet, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Eh bien, m'efforcer de répondre à celles à ceux qui m'accordent leur confiance. Dès mon entrée aux télécommunications, je vous l'ai dit, j'ai assumé mes responsabilités comme syndicaliste. Dès mon entrée en politique, j'ai assuré comme électeur, attentif aux uns et aux autres, à l'écoute des uns et des autres. Chacun, au poste qu'il occupe, peut apporter, comme on dit, un plus à la société, dans l'amélioration de ses conditions. Tenez, sur le plan social, je me félicite d'avoir créé l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises, en associant l'État, en associant les patrons et les ouvriers pour définir dans l'entreprise comment doit être installé un tour, comment doit être installé un rabot, etc. Qui, mieux que l'ouvrier, peut donner le meilleur conseil ?
Toujours l'idée de la troisième voie, quoi.
Toujours l'idée, ensemble, si je mets seulement l'élu, il ne le fait pas, mais les trois ensemble, cette revendication-là, à son prolongement dans les entreprises. N'est-ce pas ? Je souhaite qu'elle descende le plus bas possible. Associée aux côtés, oui, aujourd'hui, dans le cadre de ce conflit économique, sans merci, je vais prendre une expression sportive. Si on veut gagner le match, il faut que chaque participant au match fasse un effort.
Travail d'équipe.
Pour qu'on puisse marquer des buts au profit de l'entreprise. Étant entendu, bien sûr, que ce profit, et c'est là, la représentation du profit, doit bien sûr être au bénéfice de l'ensemble, de tous. Et c'est ça ma volonté.
Alors vous continuez à vous battre avec une ardeur, je dirais presque féroce, mais certains vous reprochent d'avoir brigué un mandat de trop en tant que président du Conseil Général des Vosges. Vous avez toujours été élu dans un fauteuil. Hein. Je crois que c'est la 12e fois que vous étiez candidat. Et cette fois-ci, vous avez été élu au bénéfice de la...
Non, écoutez, ce qui m'a fait le plus de mal, et je crois que dans ma carrière politique, c'est peut-être le moment où, intérieurement, moralement, j'ai le plus souffert.
Le plus douloureux.
Pourquoi ? Qu'on vienne me dire, ouvertement et loyalement, Monsieur Poncelet, nous considérons qu'il est pour vous le temps de partir. C'est clair, ça ?
Oui, oui. Oui.
Mais écoutez-moi bien. Seigneur, protégez-moi de mes amis, mes adversaires, je m'en charge. Ceux qui aujourd'hui donnent ça comme prétexte, alors que j'ai été dans leur canton, certains d'entre eux étaient renouvelables, j'ai été dans leur canton.
Les faire élire, quoi.
Les faire élire.
Ça, c'est clair.
D'autres, c'est moi qui les avais, bien sûr, proposés comme candidat à la députation.
On donnera pas de nom.
Non, on donnera pas de nom. Fais campagne pour eux. Mm-hmm. Pris la parole, n'est-ce pas ? Les associer à des actions que je lançais. Et j'ai fait tous les candidats sans distinction. Sans distinction.
Oui, ce qu'on disait tout à l'heure.
Et le jour du vote, je m'aperçois que sous l'impulsion de deux personnes qui m'avaient rassemblé d'autres, eh bien, ils voulaient me mettre dehors. Et ça, je ne l'ai pas accepté.
Et avec l'expérience que vous aviez, vous ne pouviez pas vous attendre à cela.
Non, j'avoue que je suis encore inexpérimenté. Je ne me doutais pas qu'il pouvait y avoir un tel niveau de trahison, un tel niveau d'ingratitude. Et c'est là que je me suis rappelé la formule classique, n'est-ce pas ? Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine, n'est-ce pas ? C'est là que je me suis rappelé cela.
Mais gardez longtemps cette naïveté. Alors à propos de naïveté, je voudrais terminer par une évocation, si vous le permettez, personnelle.
Oui.
D'après ce que je sais de votre famille, vous êtes très attaché à vos trois petits-enfants. Alors il y a Romain, il y a Thomas et Léopold. Hein. C'est ça,
c'est
votre vie. Ça.
C'est ma vie.
C'est votre vie. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui qui puisse leur donner confiance dans leur avenir, à ces trois-là ?
À ces trois-là, le travail. C'est pas un exemple. Mon premier petit-fils a fait de bonnes études, il est sérieux, c'est bien.
C'est celui qui est parti autour du monde, c'est
fait
lui
le tour du monde, celui-là.
C'est Romain, celui-là.
C'est Romain, celui-là. Il a fait le tour du monde avec sa compagne, n'est-ce pas ? Il s'est lancé un défi pour connaître le monde. Ils ont fait des économies, tout ça. Ils appartiennent à un groupe, vous savez, de relais, qui se fait relais, etc.
Ça.
Il a pris une année abbatiale, etc. C'est leur choix. Mais sérieux et tout. Et le deuxième, c'est Romain, réussi brillamment à l'ESSEC.
Non, ça, c'est Thomas, le second.
C'est Thomas. C'est Thomas, le premier, c'est Romain. Le deuxième, Thomas. C'est Thomas. Ouais. Et Thomas, il était à l'ESSEC et m'arrange pour qu'il aille à Singapour apprendre le mandarin. Et on l'envoie là-bas, et moi, bien sûr, je le soutiens là-bas. Hein, j'étais heureux. Mais il ne s'attendait pas à ce que, étant à Singapour, fini des études de son mandarin, je le fasse inscrire à l'université de Kunming en Chine. Et il a appris le chinois. Et là, nous avons été une période un peu froide tous les deux. Il m'a dit, merci papy de m'exiler, n'est-ce pas ? Tu ne me veux plus près de toi, etc., tout ça. Il était très fâché. Puis je suis allé le voir, puis bien sûr, j'étais gêné même, parce que j'avais l'arme aux yeux. Vous vous en souvenez, quand il y a eu les événements dramatiques à l'égard des sportifs chinois qui sont venus là ici. Je suis allé en Chine avec une délégation du Sénat. J'ai été reçu par Monsieur Hu Jintao pour essayer d'apaiser en disant, écoutez, il ne faut pas en vouloir à la France. Nous sommes un pays de liberté. Parfois, certains en abusent, etc., etc. Et avant de partir à cette audience, qui je vois arriver?
Votre petit-fils?
Mon petit-fils, qui lui, parle chinois, avait pris le train pour venir, excellent. Et je demande au président Hu Jintao s'il acceptait mon petit-fils dans cette délégation qui était en étude en Chine. Il me dit oui.
Il était avec vous?
Oui, alors il s'est mis de côté, il n'a rien dit, il n'a rien parlé à personne. À la fin de la délégation, tout le monde s'en va, moi je m'en parle le dernier, il était assis à côté de moi. Et le président lui parle en chinois. Et lui, il répond en chinois. Il parlait tout de suite en chinois, etc. Mais mes collègues au loin me faisaient des signes que c'était l'heure de partir, etc.
Ça a dû être un des plus beaux jours de votre vie.
C'est un des beaux jours de ma vie, ça. C'est un des très beaux jours de ma vie, ça. Hein? Il m'a simplement dit en confidence, il m'a dit, il parle bien, mais il faut qu'il fasse attention à sa prononciation. Voilà.
Et le dernier, alors, le dernier Léopold?
Ah ben, le dernier Léopold, c'est sa majesté Léopold. Parce que les poncelets sont répartis en Belgique et en France, vous savez. C'est mon chouchou, quoi. Puis c'est le chouchou des deux autres.
Alors lui, il fait à la fois du sport, si je suis bien informé, c'est ça?
Oui, il fait du foot et du tennis. Et puis, il passe le brevet. Alors, tous les dimanches, je l'appelle. Mais des fois, un peu tard, ma fille m'appelle, mais papa, je t'en supplie, appelle Léopold, il ne veut pas aller au lit, il attend ton téléphone. Et chaque fois que je l'appelle, je lui dis, où en es-tu de tes notes? Où en es-tu de tes notes? C'est pas? Je le taquine un petit peu. Si vous voulez, je vais vous faire part d'une personne, un peu dans ma vie, j'étais un peu déçu, quoi, dans ma vie, mais c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. C'est pas, j'ai pas eu de garçon. J'aurais voulu avoir un garçon, j'ai eu deux filles, et pour des raisons de santé, j'ai pas pu avoir d'autres enfants. Mais mes filles m'ont vengé, elles m'ont fait trois petits garçons, ma première fille, deux garçons, et ma seconde fille, un garçon.
Mais ces trois-là, là, qui s'entendent très bien, qu'est-ce qu'ils vous ont le plus appris, eux, de la vie, à vous?
Ce qu'ils m'ont appris, c'est que, on a toujours besoin, dans la vie, de réfléchir et de tirer un enseignement de l'expérience des autres. Alors, papy, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Je lui dis, cette direction-là, il me demande, il faut en parler, on discute, n'est-ce pas, tout cela. Et je crois que, il faut faire très attention. Les jeunes qui arrivent au pouvoir aujourd'hui sont des jeunes qui n'ont pas été confrontés à l'épreuve. L'homme est un apprenti, la durée est son maître. Les peuples sont là. Ceux qui sont là aujourd'hui, mes propres enfants, n'ont pas eu fort heureusement à affronter les épreuves que moi j'ai connues. Dans ma famille, par la pression allemande, etc., par la pression nazie. Moi, j'ai quitté la France pour aller dans ma famille qui avait opté en 70 pour la France et que la France avait envoyé les Schwilk en Algérie, dans la région Oranie, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, cette jeunesse est baignée pour l'instant, ça, dans une volonté de jouissance, n'est-ce pas? Une volonté de satisfaction. Il faut qu'ils se familiarisent avec le combat. La vie est un combat. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. C'est ça qu'il faut les apprendre. Et rien, on aura
Vous leur dites ça?
Ah, je leur dis, je les apprends à lutter.
Et qu'est-ce qu'ils disent, papy, sous-nous la paix?
Oui, parfois ils disent, mais non, papy, mais non, il y arrivera. Non, si tu ne fais rien, tu n'y arriveras pas. Si tu ne fais rien, tu n'y arriveras pas. Et aujourd'hui, j'ai mon petit-fils, qui a une bonne situation, n'est-ce pas?
Donc il se bouge, quoi.
Ah oui, il se bouge. Puis je lui dis, tu es là, c'est bien, mais tu ne vas pas rester là, t'es bien, tu es heureux, mais non, il faut continuer. L'autre, j'attends qu'il rentre de son truc, là, pour lui parler un peu, de son périple, là. Ah, il me téléphone pour me dire ce qu'il a fait. Il tient un livre pour ce qu'il voit.
Vous nous raconterez, vous viendrez nous raconter ça.
Ça après.
Ainsi s'achève cet essentiel, dont l'invité était donc aujourd'hui Christian Poncelet, ancien secrétaire d'État, ancien président du Sénat, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Depuis 2003 et à 83 ans, toujours sénateur des Vosges et président du conseil général de ce département, Christian Poncelet, qui est probablement, je le disais en commençant cette émission, le parlementaire français en exercice totalisant le plus grand nombre d'années de mandats politiques électifs locaux et nationaux. Monsieur le Président, merci.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur votre antenne.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.